BW. Droits et libertés.
Avoir accès aux migrants portés disparus en Algérie après avoir été ramenés à la frontière avec le Niger, voilà ce que réclame le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Et puis nous parlerons aussi cette semaine des conséquences des discriminations envers les filles en Inde, où il manque près de 64 millions de femmes. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Plus d'une centaine de migrants originaires du Yémen, de Syrie, de Palestine auraient été envoyés dans le désert par les autorités algériennes près de la frontière avec le Niger. Le HCR s'inquiète de la disparition de ces ressortissants arabes. Ils auraient été conduits vers une zone proche du poste frontière de In Ghezam le 26 décembre dernier. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie est accusée d'avoir déporté des migrants dans le Sahara ou de les expulser sans autre forme de procès. Le gouvernement refuse de donner accès à ces personnes en difficulté au HCR, arguant qu'il ne s'agit là non pas de migrants, mais de terroristes présumés. Le ministre de l'Intérieur estime qu'il en va de la sécurité nationale. C'est souvent que la Ligue algérienne des droits de l'homme a des tensions avec le gouvernement sur les droits fondamentaux comme le droit d'expression ou de réunion. Mais la migration est aussi une pomme de discorde qui revient régulièrement sur le tapis. Le vice-président de la Ligue, Saïd Salhi, reste toutefois très général quant aux problèmes que les défenseurs des droits humains rencontrent avec les autorités.
Nous ne disposons pas de cadre légal national, notamment de loi d'asile. Nous ne disposons pas d'institutions habilitées. Il y a donc à chaque fois de la confusion, de la tergiversation, de l'amalgame.
Hassan Kassimi, responsable de la migration au sein du ministère de l'Intérieur, il rejette le problème posé par le HCR, puisque selon lui, il n'est pas question là de migrants.
Et on a retrouvé sur certains, on a retrouvé plus de 15 000 dollars dans la poche. Donc ces gens-là ne sont pas des migrants. Ils étaient en contact sur WhatsApp avec le général-major qui encadrait, organisait le redéploiement syrien de l'armée libre syrienne qui encadrait le redéploiement de ces djihadistes vers l'Algérie, bien sûr, dans une partie avait pour mission de remonter vers l'Europe. Ces personnes-là qui sont arrivées sur le territoire national ne sont pas arrivées avec des clashs sur les épaules ou alors ils ne sont pas arrivés avec des Land Rover bourrés d'explosifs.
L'armée libre syrienne, raconte Hassan Kassimi à la chaîne TSA, serait soutenue en partie par le groupe État islamique, un groupe terroriste donc. Il affirme qu'aucune des personnes envoyées dans le Sahara n'avait d'ailleurs déposé de demande d'asile, que ce soit en Algérie ou ailleurs.
La déstabilisation sera portée aussi en Europe par le fait de ces djihadistes qui essayent de s'implanter là où il y a la stabilité, là où il y a la sécurité pour installer des cellules dormantes et les utiliser le moment venu selon des agendas qui sont bien connus.
Aucune information n'a été donnée sur un éventuel accord passé avec le Niger concernant ses ressortissants arabes. L'Algérie affirme qu'ils ne sont plus sur son sol. Le HCR, lui, n'a pas voulu répondre à nos questions sur ce sujet, ni à Genève, ni à Alger. Dans le monde, en moyenne, les femmes représentent plus de la moitié de la population humaine, environ 51%. Sauf qu'en Inde, des statistiques révèlent que début 2018, plus de 63 millions de femmes manquaient au pays. La raison, c'est que les petites filles sont victimes d'une politique hostile. Des milliers de mères procèdent à des avortements quand elles apprennent que leur enfant est de sexe féminin. Et de nombreux bébés filles sont tués dès la naissance. Dans le village de Soyan Kalan, c'est dans le nord-est du pays, Paramjit est assise sur une chaise en plastique. Elle fixe le sol en triturant le voile qu'elle porte sur la tête. À 20 ans, la jeune femme est enceinte pour la troisième fois. Elle a déjà donné naissance à deux petites filles et maintenant qu'elle sait qu'elle attend un nouvel enfant, elle va prier au temple tous les jours.
Je prie à deux mains que cette fois, ce soit un garçon. Je dis aux dieux qu'ils peuvent tout exiger de moi s'ils me donnent un fils.
La pression est énorme sur cette jeune maman. Sa belle-sœur lui reproche tous les jours de ne pas avoir été capable d'avoir un garçon. Sa mère insiste même pour qu'elle fasse un test afin de déterminer le sexe de l'enfant.
Et après, qu'est-ce que je dois faire si on me dit que c'est encore une fille ?
Eh bien, dans ce cas, il faudra avorter, lui dit sa mère.
C'est ce que je ferais. Si j'avais de l'argent, je ferais ce test et j'avorterais. Tout le monde me dit qu'il faudrait que j'avorte si c'était une fille, parce que j'en ai déjà deux.
En Inde, les tests prénataux sont interdits depuis près de 25 ans. Mais la tradition persiste. Avoir une fille, pour beaucoup d'Indiens, c'est d'abord un fardeau. Ça veut dire en effet qu'il faudra payer le mariage et puis une dot. Ça aussi, c'est illégal. Depuis 1961 d'ailleurs. Mais dans 90% des cas, les parents de la mariée sont obligés de payer le mariage en espèces sonnantes et trébuchantes. Il faut faire de gros cadeaux aux parents du marié. Et cela représente des sommes d'argent bien plus importantes encore que de faire un test prénatal ou de payer un avortement. Même si les tests ne sont pas disponibles dans les cliniques, les femmes enceintes savent qu'il est facile d'y procéder, à condition bien sûr d'avoir là encore l'argent nécessaire.
À quelques rues d'ici, je connais une infirmière qui fait ça. Elle prend une centaine d'euros et garantit de pouvoir dire à 100% si le bébé sera un garçon ou une fille.
Le gouvernement indien est bien obligé de le reconnaître. Chaque année, 2 millions de petites filles manquent au pays. Soit parce que leur mère a avorté, soit parce qu'elles ont été tuées à la naissance ou qu'on les a laissées mourir en bas âge en ne leur prodiguant pas les soins nécessaires. Pour celles qui survivent malgré tout, la vie reste difficile. On estime à 20 millions le nombre de petites filles non désirées. Certaines d'entre elles portent même le nom de Nakushi, qui signifie justement « non voulu ». Alors pour contrer ces préjugés négatifs et néfastes, Sejo Singh a créé une organisation qui soutient les femmes et les filles.
So South Asia is plagued with something called the son preference.
En Asie du Sud, on préfère les garçons. Cela est vrai depuis une trentaine d'années et a à voir avec la cupidité liée à la dot. Et puis les fils sont considérés comme les garants de la prospérité matérielle de leur famille. L'arrivée des échographies a provoqué un véritable génocide. On estime aujourd'hui que ces tests prénataux conduisent à la mort de jusqu'à 9000 filles par jour.
Girl children missing every day in this country.
Devant l'ampleur du phénomène, les autorités indiennes ont fini par comprendre que seules les interdictions ne suffisaient pas. Il faut aussi des programmes de sensibilisation. L'un d'entre eux a un titre qui parle d'ailleurs de lui-même « Sauve ta fille et envoie-la à l'école ». Le président de l'Inde a commandé en 2017 une application pour smartphone qui s'appelle « Selfie avec ma fille ». Des pères et des mères sont invités à y poster des photos d'eux avec leur fille. Des assistantes sociales sillonnent le pays pour montrer des photos de femmes pilotes, de femmes politiques ou à des postes de responsabilité dans des entreprises. Bref, de photos de femmes qui ont socialement réussi dans les villages. Parce que les femmes qui réussissent existent aussi, bien sûr, en Inde. Les moins jeunes d'entre nous se souviennent par exemple d'Indira Gandhi, une des toutes premières femmes premier ministre au monde dès les années 1960. C'est-à-dire à une époque où en Allemagne, une femme devait encore demander l'autorisation de son mari, ne serait-ce que pour travailler. Hardeep Kaur travaille justement dans le social, dans le village où la jeune Paramjit qu'on entendait au début de ce reportage craignait d'accoucher d'une troisième fille. Hardeep essaie de convaincre les femmes enceintes qu'avoir une petite fille, eh bien, c'est pas un mal, ni même un poids.
Nous leur disons, regarde, ta mère aussi a eu le courage de te donner naissance. Il faut que tu acceptes d'avoir une fille. Sans te laisser influencer par ton entourage.
be able to influence you.
Évidemment, plus facile à dire qu'à faire. En règle générale, les filles quittent la maison parentale dès qu'elles se marient et dès lors, elles appartiennent à la famille de leur époux. Il arrive d'ailleurs que quand on demande à quelqu'un combien il a d'enfants, que la réponse ne prenne en compte en fait que ses fils. Et c'est ce poids énorme de la société couplée à la pauvreté extrême qui fait que les mères comme Paramjit ont du mal à s'opposer à la volonté de leur famille et à être fières d'accoucher d'une petite fille. D'ailleurs, dès leur enfance, on prépare les filles à ce qu'elles se sentent dévalorisées.
Mon frère était choyé à la maison. Mes sœurs et moi, on a dû abandonner l'école publique après la 6e classe. Notre frère, lui, on l'a envoyé dans une école privée et il a pu faire les études qu'il voulait.
Si Paramjit accouche d'une troisième fille, elle risque d'être répudiée et de se retrouver seule, sans le sou, avec ses deux enfants. Une femme et trois petites filles dont personne en Inde ne voudrait, comme c'est le cas de millions d'autres filles à travers le pays. C'est la fin de ce magazine. Merci à Jens Borchers et Silke Dietrich pour les sons. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure.
Je t'ai élevé de mon mieux et j'ai toujours fait attention à perpétuer les règles, à respecter la tradition, comme l'ont fait mes parents. Crois-moi, sans riposter, comme le font tous ces hommes que je croise à la mosquée. Je t'ai élevé de mon mieux, comme le font tous les nôtres. Mais était-ce pour ton bien ou pour faire comme les autres?
Tu as fait de ton mieux.
Tous ces doutes qui apparaissent et cette question affreuse. C'est moi qui t'ai élevé, mais es-tu seulement heureuse? Je sais que je suis sévère et nombreux sont les interdits. Tu rentres tout de suite après l'école et ne sors jamais le samedi.
Mais chez nous, c'est comme ça.
Mais plus ça va et moins j'arrive à effacer cette pensée. Tu songes à quoi dans ta chambre quand tes amis vont danser? Tout le monde est fier de toi. Tu as toujours été une bonne élève. Mais a-t-on vu assez souvent un vrai sourire sur tes lèvres? Tout ça, je me le demande, mais jamais en face de toi. Tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas.